Alors, vous vous souvenez que la dernière fois, nous avions essayé de voir la signification du geste. Alors, on me pose ici une question, dans le sens d'une précision. Ne faudrait-il pas distinguer, à propos du geste, le conventionnel dans la signification et le choix des gestes qui intervient dans la vie pratique? Car, à propos de signification conventionnelle, vous avez pris l'exemple de la fourchette et de la cuillère. Sûr, d'une certaine manière. Il y en aurait beaucoup d'autres plus conventionnels. Hein. Or, là, il s'agit de choix de moyens en vue d'un résultat efficace, et non de signes. Oui. Quand même un geste. Est-ce que le geste n'est pas changé aussi par les instruments? Ça, on pourrait demander. Hein. L'emploi de la cuillère est un geste parmi d'autres possibles conduisant au même résultat. Le moyen n'est pas déterminé à l'unum parce que l'intelligence intervient, elle intervient normalement, naturellement, même dans la poursuite des fins végétatives. Au niveau simplement humain, le geste signe ou symbole employé dans la communication et le geste moyen efficace ne sont-ils pas séparés? Est-ce que ce n'est pas le propre du sacrement que le même geste soit à la fois symbole, c'est-à-dire renvoie à une autre réalité, et soit aussi efficace? Ça, c'est, on le verra. Ça n'est pas encore prêté. D'autre part, est-ce que le propre du symbole par rapport aux signes entièrement conventionnels que sont les mots n'est pas que tel choix est choisi, que telle chose, hein? D'autre part, est-ce que le propre du symbole n'est pas que telle chose est choisie comme signe parce qu'il présente une similitude avec la réalité qu'elle doit signifier? Oui, sûrement. C'est le fondement du symbole. Alors, on va essayer de comprendre hein, cette question du geste. C'est bien, je vous ai dit, hein, n'hésitez pas de mettre vos réactions parce qu'on cherche. Je dis aussi qu'on cherche. Il y a longtemps que j'ai cette idée en tête, la question du geste et la question de renouveler les sacrements par le point de vue du geste, parce que je crois que c'est important de saisir cela, et puis que c'est quand même très important dans une philosophie de la communauté, très à l'ordre du jour, de saisir qu'il y a double communication, la communication par la parole et la communication par le geste. Nous étions partis par de là. Dieu qui nous communique sa lumière et son amour se sert de la parole et du geste. Et c'est en sens qu'il peut dire, Dieu, pour nous communiquer sa lumière, se sert de la parole humaine en nous enseignant par la révélation, et se sert aussi des personnes humaines. Dieu parle à travers les hommes. Et les hommes sont comme une présence de Dieu pour nous, et il y a des gestes des personnes, des gestes des prophètes, qui exprime quelque chose de plus que la parole. C'était le point de vue du point de départ. Hein. Nous sommes partis par là. Et nous avons essayé d'étudier après quelle différence y a-t-il, et ceci nous permet de comprendre la communication différente, quelle différence y a-t-il entre le point de vue du geste et le point de vue de la parole au point de vue de la signification. Nous avions vu la chose classique de la parole au point de vue de la signification, en voyant comment les modernes détournaient complètement ce point de vue de la signification. Et puis, j'avais essayé d'étudier avec vous, alors là c'est beaucoup plus complexe, la question de la signification du geste. Alors, je crois que nous pouvons toujours dire qu'il y a un geste qui a une signification naturelle. Un geste au sens très très vaste, le sourire. Un geste, la poignée de main, un geste. On va voir si le poignet de main est le même geste dans toutes les civilisations. Ce sera intéressant de voir ça. Sans doute qu'on ne se serre pas la main de la même façon. On va sûrement pas. Il y a des poignées de main qui sont différentes. Et nous-mêmes, au fond, aussi, on sent bien. Mais il y a des gestes naturels, ça je crois, qui ont une signification naturelle. Alors, quand je dis signification naturelle, comprenons bien, je parle toujours de l'homme. Parce qu'il s'agit du singe, très différent. C'est l'animal aussi, l'éléphant qui joue du piano, c'est une signification assez particulière. Ça. Mais au fond, il s'agit de l'homme. Donc il s'agit toujours du corps habité par l'âme. Et je crois que ça c'est important, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Du corps habité par l'âme, qui fait que, exactement comme pour la parole est habitée par la pensée, la parole incarne la pensée et permet à la pensée de se transmettre et de se manifester. De même, le geste permet à l'âme de se manifester. Donc, intervient dans tout geste humain, dans les gestes humains. C'est pour cela qu'il faudrait y avoir un champ. Vous avez des gestes naturels. Puis vous avez des gestes humains volontaires. Puis vous avez, c'est là où intervient des gestes artistiques. Mimer, quand on mime. Le geste prend une valeur tout à fait différente déjà. Et alors ça devient quelque chose de beaucoup plus artistique, où l'aspect de l'intelligence est beaucoup plus présent. Et puis des gestes conventionnels. Parce que je suis dans une communauté, là intervient le point de vue de la loi. Ou la loi ou les coutumes. Donc, il y a tout, et je crois qu'il faudrait graduer ça. Après le coup, la dernière fois, j'y avais pensé, je m'étais dit, il faudrait graduer toute la diversité des significations des gestes. Depuis le geste naturel, l'âme est naturellement dans le corps. Et comme l'âme est naturellement dans le corps, il y a donc une présence de l'âme par le corps. Le geste fondamental, c'est la présence. Ça, c'est sûr. Et tout est ordonné d'une certaine manière à cette présence. Alors, il y a des gestes naturels qui montrent la présence. On est présent l'un à l'autre. On est présent. Il y a une espèce d'intention profonde qui passe à travers le corps et qui s'exprime par la poignée de main, qui s'exprime par un regard. Un regard, c'est un geste. C'est vrai. Ça fait partie du geste, parce que ce n'est pas la parole. Et donc ça fait partie du geste, ça fait partie de la présence. Et ça fait partie de la possibilité qu'il y a de transmettre quelque chose. Je transmets le feu par le regard, comme disaient les anciens. Et on transmet par le regard beaucoup plus de choses que quelquefois par la parole. Un vieil article d'un père maître, qui disait le père dominicain, qui disait que c'était pas tellement les paroles, c'était les regards qui étaient importants à saisir. Et alors dans les regards, ça se transmet, puis ça fait des étincelles. On voit très bien que le regard fait partie de la présence, et c'est quelque chose de naturel, et quelque chose qui a... Oui. Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le geste lié à l'affectivité. Est-ce que tous les gestes ne sont pas liés à l'affectivité? Pour moi, tous les gestes sont liés à l'affectivité. Parce que c'est lié au corps dans le sens, vous voyez, la parole aussi est liée au corps par le point de vue de la voix. Vous voyez? Mais c'est lié à l'affectivité, plus ou moins. Mais c'est très vrai que c'est lié à l'affectivité, c'est la communication d'affectivité. Le regard, c'est la communication d'affectivité. Au sens très très fort, c'est le feu. Vous voyez? Je me demande si tout geste n'est pas lié à la fatigue. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Même dans l'art. Même dans l'art. C'est beaucoup plus fier d'effectivité que la parole. Le mime. Gendarme, c'est extrêmement conventionnel. Alors là, vous trouvez, vous voyez, c'est la barbe bien coupée ou la moustache bien coupée pour que de fait ce soit très conventionnel. Alors là, évidemment, quand c'est très conventionnel, c'est quelque chose qui est l'affectivité beaucoup moindre. Ah oui, une affectivité. Oui, vous croyez ? Les racines du gendarme. Vous croyez qu'il n'y a pas d'affectivité ? Quand le gendarme vous donne une contravention, et le geste du gendarme qui vous donne une contravention, vous n'avez jamais vu. Et si vous commencez à sourire un tout petit peu, il croit que vous riez de lui et il n'est pas content du tout. C'est l'affectivité, tout de suite le contact est très 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 particulier. C'est le contact de l'autorité. C'est le geste de l'autorité, et l'autorité est liée à l'affectivité. C'est les racines du gendarme, hein, le droit, vous commandez. Oui.
Il n'y a pas quand même
une
petite
geste
bien séparée, d'une part le geste de l'affectivité.
Oui, tout à fait d'accord. Il y a deux catégories. Il y a le geste, vous voyez, et la main, c'est très net, parce que c'est toujours le point de vue volontaire. Alors, vous, comme dans la parole, vous voyez, ce que je cherche ici, c'est qu'on voit la diversité des gestes. Et c'est intéressant de faire la diversité des gestes pour mieux comprendre ce que c'est que le geste. Donc il faut comprendre cette diversité, puisque, comme on disait tout à l'heure, quand on divise, on comprend mieux ce que c'est. Et on comprend mieux ce qui est fondamental dans le geste. À la différence de la parole, vous voyez, ce que je cherche en premier lieu, c'est d'essayer de comprendre ces deux manières de communication. La communication par la parole est avant tout une communication intellectuelle, mais la communication par la parole peut être aussi affective. Vous voyez, une communication affective, on peut avoir une parole particulièrement douce, particulièrement... Alors c'est l'affectivité qui domine. Vous voyez, mais normalement, la parole, c'est la communication de l'intelligence. Tandis que le geste est la communication d'affectivité. C'est ça, je crois, la première division. La première division est fondamentale. Alors, l'affectivité, hein, si je prends au point de vue purement philosophique, l'affectivité. L'affectivité, c'est d'abord l'affectivité à l'état pur. L'amour. Puis l'affectivité induit l'efficacité. L'efficacité, c'est l'autre aspect volontaire de l'efficacité. Oui. Mais c'est quand même toujours la même source. C'est toujours l'amour qui est au point de vue. Et puis alors, il y a l'efficacité, il y a le geste efficace. Hein. Quand vous commandez un animal formidable, hein, c'est efficace. Et c'est l'efficacité qui prend toute sa dimension. Là. Tandis qu'au contraire, lorsque vous êtes présent, je suis là pour vous, j'ai tout mon temps, je m'assieds. Alors, très bien, c'est tout à fait différent. C'est l'affectivité qui domine. Tandis que dans le geste impératif, tout à fait, c'est le geste impératif de l'efficacité. C'est encore le point de vue. C'est l'autorité ici. L'autorité est liée à l'affectivité, et puis l'autorité demande d'être efficace. Oui.
Mais on ne parle pas de l'efficacité là, parce que le geste va signifier tout notre affectivité.
Oui, oui.
Moi, je parle de l'efficacité lorsque le geste est relié par la
tonalité. Un outil, la cuillère, la cuillère. Le geste que la cuillère pour prendre, ça c'est l'efficacité. Parce que je n'ai pas un amour particulier pour la cuillère. Pas sur l'ordre. Et vous voyez que c'est ça l'amitié. Là, c'est l'efficacité. Alors ça, c'est des gestes, c'est pour ça que je crois que là, nous avons le geste beaucoup plus lié à la présence et lié au corps, parce que c'est le point de vue du corps, la corporéité, qui est quelque chose lié au point de vue du geste, la présence. Des gestes naturels qui sont liés à l'affectivité, d'une affectivité plus ou moins consciente et d'une affectivité plus ou moins voulue, mais c'est lié à l'affectivité. Alors, on a des gestes naturels et humains, volontaires, liés à l'affectivité. Puis, nous avons les gestes qui impliqueront quelque chose d'efficacité. Puis, nous avons des gestes qui se servent, le prolongement de la main avec l'outil, le prolongement de la main. Qui sera l'ordre beaucoup plus artistique. Alors, dans l'ordre artistique, on aura tous les domaines. Il y a le geste de la danse, il y aura le geste de l'orateur, il y aura le geste. Tous, jusqu'à la mime. Vous voyez ? Alors, déjà, le point de vue artistique qui intervient. dès que le point de vue artistique intervient, le point de vue de l'intelligence intervient. Mais c'est une intelligence pratique, c'est une intelligence qui veut représenter. C'est une intelligence donc qui va faire que le geste va avoir une valeur symbolique beaucoup plus grande, je crois. Dès que le geste est lié au point de vue artistique, il y a une valeur symbolique beaucoup plus grande. Et puis, il y a le geste lié alors, à l'aspect conventionnel. Alors, on pourrait faire ces distinctions-là. Je crois qu'on arriverait à distinguer là, de cette manière-là, une signification différente dans le geste, au point de vue de l'affectivité, plus ou moins grande, l'efficacité en ligne prochaine, le point de vue de l'intelligence, le point de vue de l'intelligence, et alors, dans le point de vue de l'intelligence artistique, on aurait le point de vue symbolique, le terme de l'œuvre artistique, et puis le point de vue de l'outil qui permet l'efficacité plus grande et le geste lié à l'outil et l'outil prolongeant le geste alors pour la réalisation, pour l'efficacité, pour le travail, il y a le geste du travailleur. Et le geste du travailleur est autre chose que le geste du que le geste ordinaire ou artistique, mais c'est quand même lié au travail. Et là, dans le point de vue du travail, dans l'artistique, le point de vue du geste du travailleur, et puis le point de vue conventionnel. Il faudrait réfléchir là-dessus. C'est intéressant, essayer de réfléchir sur la manière dont on pourrait diviser, vraiment une division philosophique, hein, diviser le geste, pour comprendre les diverses modalités du geste. Je crois qu'en effet, il y a une diversité très grande dans le point de vue du geste. Mais je crois que le geste est toujours lié au corps, et par le corps est toujours lié à l'affectivité. Il me semble, personnellement. Mais une affectivité qui est source de l'efficacité, l'efficacité peut prendre des nuances différentes dans un geste efficace de commandement, dans un geste affectif de tendresse, dans un geste de mime, ou dans un geste artistique où la valeur symbolique est beaucoup plus grande, et à l'intérieur de cela, le geste du travailleur qui se sert en outil, puis les gestes conventionnels. Oui.
Un geste conventionnel transmet l'affectivité en
tant que corps, comme tu l'as dit. C'est
toujours lié à la loi. Une communication affective.
Oui, une communication affective, la loi est toujours un peu liée à la fin, à la finalité, c'est ce que je dis. C'est pour distinguer, toujours distinguer le geste de la parole. La parole est liée à l'affectivité par la voix. Alors, il y a toujours un lien. Alors faisons attention, hein. Intelligence et amour, et intelligence et volonté seront toujours liées, aussi bien du côté de la parole que du côté du geste. Mais il y a un prima. Il y a quelque chose qui passe devant. Il me semble que quand il s'agit de la parole n'est parfaitement parole que lorsque elle transmet ce que nous pensons, et donc le contenu de la parole dans sa signification est relié à la pensée. La voix enveloppe la parole d'une affectivité plus ou moins profonde. Tu vois, pour l'exemple de ceux qui écoutent quelqu'un qui aime, quelqu'un qui n'aime pas. Alors ça connaît la voix aide à transmettre la signification. Ça, c'est bien évident. Il y a des communications, des significations qui peuvent se transmettre grâce à ça. Mais c'est second. C'est savoir est-ce que vraiment ce qui est dit implique une signification. Tandis que lorsqu'il s'agit du geste, je dirais l'affectivité est première et l'intelligence. Alors, l'affectivité est première au niveau de l'affectif naturel, et encore, au niveau de l'affectif volontaire, au niveau de la volonté artistique, et puis au niveau conventionnel. La loi est encore lié à l'effectif, puisque la loi est liée à la finalité. Vous voyez ? Et alors on aurait toutes les gradations des modalités, vous voyez, de la signification du geste qui me semble toujours liée à l'effectivité. Mais une affectivité qui prend des modalités très différentes par rapport au point de vue de l'intelligence. Ce qui me semble. Vous voyez, si on part de ce point de départ, de ces deux grands moyens de communication, la parole et le geste. Ça m'intéresserait. Je crois qu'il faut essayer de trouver ça. Oui, oui.
La parole qui se rapporte effectivement liée premièrement à l'affectivité, parce que la connaissance elle-même n'est pas la parole. elle la présuppose comme une condition pour laquelle
la connaissance humaine.
La pensée humaine n'existe pas la parole. Si je parle, c'est pour communiquer.
Oui, oui.
Donc c'est aussi par
Ah, par amour de vérité.
Non, par volonté de communiquer.
Oui, volonté de communiquer par amour de vérité. C'est pas parce que j'aime un auditoire que je lui parle, c'est parce que j'aime la vérité et la communique.
C'est pas non plus par amour de la vérité que je parle.
Quoi? C'est par amour de la vérité.
C'est pour communiquer la vérité.
Oui, communiquer. Et donc, oui, c'est, bien si bien. Je communique la vérité, c'est que je l'aime.
Mais surtout que vous aimez quoi que vous
l'aimez. Non. En premier lieu. En premier lieu, c'est l'amour de la communauté, c'est l'amour de la vérité.
Mais directement.
C'est bien évident, mais voyez, c'est pour ça que je dis que ces deux moyens de communication impliquent toujours un point de vue de l'amour et l'intelligence. C'est pas séparé, c'est bien évident. Mais la signification de la parole relève en premier lieu de la pensée. C'est ça que je veux dire. Tandis que la signification du geste est beaucoup plus liée à l'amour. C'est ça qui me semblerait intéressant à souligner et à préciser qu'il y a de fait dans ces deux communications, dans ces deux moyens de communication, l'une, toutes les deux impliquent amour, d'accord, hein, amour de la vérité, amour de, avec ce qu'on pense, c'est bien évident. Mais la signification de la parole est reliée à la pensée. À la philosophie du vivant sous-jacente et l'éthique, la communication. Il n'y a pas de logique du geste. Mais il y a une logique de la parole. Il n'y a pas de logique du geste, en vain. Le geste est lié à l'affectivité. En premier lieu, ça me semble, moi, c'est net. Donc, à la vie, mais vous voyez, quand je dis affectivité, la petite naturelle, la finalité, le point de vue du vivant finalisé par le point de vue du corps. Alors, le corps est présent dans la parole par le point de vue de la voix, et par la voix vous retrouvez l'élément affectif. Vous voyez, ça, c'est sûr qu'on retrouve l'élément affectif par le point de vue par la voix. Mais le geste, lui, c'est ça qui me semble important, et ça me semble très important. Au point de vue de la signification du geste, est-ce que la signification du geste n'est-elle pas liée en premier lieu à la pitié? Ce serait intéressant, parce qu'alors on pourrait essayer d'étudier quel est, vous voyez, étant donné qu'il y a une diversité de gestes, alors quel est le geste maximé tané? Quel est le geste qui est le geste comme tel? Est-ce que le geste parfait, est-ce que c'est la mime? Est-ce que le geste parfait, c'est au contraire le geste qui transmet le point de vue affectif? C'est pas le geste impératif du gendarme. Hein? C'est pas ça qui est le geste parfait. C'est pas le geste du travailleur non plus. C'est pas le geste parfait, celui-là. Ce n'est pas un geste conventionnel, de liturgie conventionnelle, d'un rite. C'est pas ça non plus. Alors, le geste le plus parfait, quel serait le geste le plus parfait? Quel serait, où le geste est-il le plus geste? Et comme on peut se demander, où la parole est-elle la plus parole? C'est évidemment dans un cours de philosophie. C'est bien évident. C'est là où la parole est la plus parole, puisque c'est là où la parole est véhicule de la transmission de la vérité. Et donc, c'est vraiment dans un dialogue de contemplatif que la parole prend toute sa force. Et la parole est vraiment communication de la vérité, d'une recherche de la vérité. Et alors le geste, je pourrais me poser la même chose qu'il y a une diversité. Dès qu'il y a diversité, il y a un ordre. Et l'ordre me permettrait de saisir justement ce qui caractérise le geste dans sa signification propre. Et on a fait toute la philosophie de la parole. Au fond, c'est la philosophie moderne qui essaie de comprendre la corporité. Avec la corporité, on essaie de comprendre le geste. C'est un, toute la théologie qui donne. Mais la théologie ne peut pas nous donner une philosophie du geste. En fait, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la finalité. Elle ne peut pas nous donner une vraie philosophie du geste. Elle peut donner des descriptions. Elle les donne. Et à ce moment-là, c'est très bien, parce qu'elle met l'accent sur quelque chose que, de fait, les philosophes n'ont pas étudié. Les philosophes n'ont pas étudié le... Et là, c'est dommage, parce qu'on a fait toute la théologie, comme nous allons voir, toute la théologie du sacrement, indépendamment de cela. Et je crois que c'est à partir de là que la théologie du sacrement, on sent bien, c'est court, la théologie du sacrement. Alors que, de fait, on est infiniment plus riche. Parce qu'il y a une possibilité de découvrir quelque chose qui va beaucoup plus loin, si je reprends le point de vue du geste. On va le voir, ça, après. Parce que ça, je crois que c'est intéressant à voir. Mais, ici, vous voyez, puisque nous avons repris ça, et c'est bien. J'aimerais, puisqu'on fait ça ensemble, j'aimerais qu'on puisse, sous forme d'une petite élaboration, vous voyez, décrire toute la diversité des gestes. Ça, tout le monde peut le faire. C'est une chose intéressante. Parce que je vous dis, il y a notre chantier sacramentalité. Hein. Donc, il y a dedans le chantier du geste. Et réfléchissez sur vos gestes, pour que vos gestes soient plus intelligents qu'avant. Pour que vos gestes ne soient pas uniquement fricarré-barbame. Hein, un fricarré-barbame d'Aristote et de saint Thomas, n'est-ce pas, qui fait qu'on a des tics, tout simplement. Donc, c'est des gestes qui sont instinctifs. On chasse des mouches. N'est-ce pas? Alors, c'est très très bien de chasser des mouches. Ça n'a pas d'importance, puisqu'on n'attribue pas plus d'importance à ça qu'à autre chose. N'est-ce pas? C'est vrai que nos gestes doivent avoir une signification. Notre âme est jusqu'au bout de notre doigt. Et notre âme étant jusqu'au bout de notre doigt peut exprimer quelque chose que seul le doigt peut exprimer. Parce qu'on parle du doigt de Dieu. Le doigt exprime quelque chose qu'il peut seul exprimer. Et alors il y a quand même quelque chose d'important. Le bras de Dieu. Toutes les expressions qu'on trouverait dans l'Écriture, du reste, on reprendrait tous les gestes de l'Écriture pour essayer de comprendre toute cette théologie des gestes qui existent dans l'Écriture, et qui sont comme des présences, des communications affectives. Alors, je reprends, il me semble que le geste implique une signification affective que n'applique pas la parole. Cette signification affective implique toujours nécessairement des éléments de l'intelligence. C'est sûr, pas possible autrement, puisque l'affectivité, lorsqu'elle est parfaite, implique toujours des éléments d'intelligence, et de connaissance, en effet. Connaissance imaginative, connaissance sensible, connaissance... toujours. Mais c'est vraiment le point de vue de la signification de l'amour. Et c'est pour ça que le geste est tout de suite plus symbolique que la parole. La parole implique quelque chose de symbolique, c'est sûr. Mais la parole est plus signe que symbole, alors que le geste est plus symbole que signe, à cause de cet élément affectif. Alors, il y a une opacité du signe, l'opacité du geste qui est beaucoup plus fort, et qui fait que le geste a un élément symbolique. Et c'est pour ça que le geste peut être pris par l'art et avoir une mime. La mime implique justement quelque chose de symbolique. On exprime cela. Des mimes très extraordinaires. Hein? C'est très intelligent. Et c'est en même temps très symbolique. C'est quelque chose qui va très loin dans l'expression du corps, l'expression du geste, pour maintenir une certaine présence et faire comprendre certaines choses qu'on ne peut le faire comprendre que comme là, que par là. Alors, il y a cet élément symbolique qui est plus grand, il me semble, dans le geste que dans la parole. Alors, maintenant, si vous voulez après ça, hein, on peut essayer maintenant de comprendre si je passe à quelque chose d'ordre surnaturel, d'un point de vue divin. Je peux dire que, de fait, Dieu se sert de la parole humaine, il faut faire la théologie de la parole comme il faut faire la théologie du geste. Et la théologie de la parole, c'est relever dans l'Écriture tout ce que Dieu dit lui-même sur la parole de Dieu. C'est une chose très belle à faire. Je l'ai fait, ça m'avait beaucoup intéressé. Depuis le début jusqu'à la fin de l'Écriture, chaque fois qu'on parle, Dieu nous parle de la parole de Dieu et des qualités de la parole de Dieu. Puis j'ai prêté à quelqu'un, ça n'est jamais revenu. Les paroles ne sont pas importantes. Mais tout, c'est d'avoir fait. Voilà, c'est d'avoir fait ça parce que ça enrichit beaucoup. Ça fait... Après, on peut faire un petit article sur la théologie de la parole. Ce serait très beau. La théologie de la parole. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est comme un marteau. La parole de Dieu est lumineuse. Etc. Et ainsi de suite. Tout. Et alors, essayer de donner une théologie de la parole. Il faudrait faire une théologie du geste. Et alors, la théologie du geste nous permettrait, je crois, de passer de là à la symbolique des sacrements. Alors, il y a le passage entre les deux qui n'est pas commode. Et c'est ça que je voudrais réfléchir un tout petit peu avec vous là-dessus. La symbolique, le point de vue de la parole, c'est net. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. L'Église garde la parole de Dieu. Et on parle de la parole de Dieu et on ne dit pas la parole de l'Église. On ne dit pas la parole du théologien, on dit toujours la parole de Dieu. Même ceux qui n'y croient pas beaucoup, ils disent la parole de Dieu. Ils sont bien obligés de dire. Verbum Domini. Ils sont bien obligés de dire parole de Dieu. Après avoir lu un passage de la Genèse, parole de Dieu. Quand ils seront sur un cours pour expliquer, ils montreront qu'il y a du gouvernement, ils ne savent rien. Mais ils diront parole de Dieu, officiellement. Vous voyez ? Verbum Domini. C'est la parole du Dieu. Alors, lorsqu'il s'agit du geste, la transmission du geste, le geste est beaucoup plus lié à l'individu. Ça, c'est sûr, puisqu'il est plus affectif. La parole est universelle, elle se transmet. Elle est écrite, elle se transmet. La signification universelle de la parole. Tandis que le geste ne se transmet pas. C'est vrai, les gestes des prophètes. Les gestes des prophètes, c'est écrit, mais vous n'allez pas dire, moi je vais prendre les gestes des prophètes, et puis je vais mettre en vie les gestes des prophètes. Ce serait quelque chose d'assez extraordinaire, n'est-ce pas ? Et alors on dirait, à ce moment-là, vous imitez, vous n'avez pas le droit d'imiter les prophètes. C'est pas du Saint-Esprit que vous imitez. C'est très vrai, vous imitez. C'est très curieux de voir que la parole se transmet, et que le geste ne se transmet pas. Parce qu'il y a ce côté très individuel, ce côté beaucoup plus affectif. Et que si je me mets à imiter les prophètes, je dis non, c'est pas de Dieu, c'est du Saint-Esprit. C'est pas fait pour ça. Et Jésus a voulu que ses gestes se transmettent dans les sacrements. Alors, il me semble que le sacrement va être la possibilité pour comprendre comment le geste se transmet. Comment le geste individuel et personnel du Christ va pouvoir se transmettre dans une communauté. Et c'est pour ça que dans les sacrements, il y aura toujours un aspect conventionnel, parce qu'il y a l'aspect de la hiérarchie qui intervient, il y a l'aspect du législateur qui intervient, et qui fait que le geste va pouvoir se transmettre. Il y a quelque chose qui se transmet. Alors, c'est ça qu'on va essayer de voir, si vous voulez. Je voudrais voir entre les deux. Alors, je prends la définition classique du sacrement, telle que saint Thomas nous la donne à la suite de saint Augustin. Puis on essaiera, à travers cette définition classique de saint Thomas du sacrement, voir comment cette définition, si je veux la repenser, je retrouve le geste. C'est ça qui me semble important. Et alors à ce moment-là, je peux reprendre une théologie du geste et essayer par cette théologie du geste donner à la théologie du sacrement, toute sa signification. C'est le procédé que je prends pour m'enraciner dans la tradition. Je vais s'enraciner dans la tradition, je n'ai pas le droit de faire en disant je prends une théologie du geste, la philosophie du geste jusqu'ici n'a pas existé, mais tant pis, je fais une nouvelle théologie, la théologie du geste. Non, pas du tout, je n'ai pas le droit. Je dois essayer de comprendre comment la définition la plus classique du sacrement rejoint de fait le point de vue du geste. La définition la plus classique du sacrement, celle de saint Augustin, n'est-ce pas ? Verbum ad sacramentum, ad elementum fit sacramentum. Le verbe, la parole, liée à l'élément, devient le sacrement. C'est la définition classique qu'il faut savoir. Ça fait partie des choses qui sont belles, du reste. Hein. Donc, le verbe, la parole, appliqué à l'élément, devient le sacrement. Et comme on dit, dans le sacrement, on a toujours les deux. Vous voyez, ça c'est très facile à comprendre. Il y a les paroles sacramentelles du baptême, et puis il y a l'eau. Si vous ne dites que les paroles sans l'eau, il n'y a pas de sacrement. Si vous prenez l'eau sans les paroles, il n'y a pas de sacrement. Vous avez le front, la faim. Vous avez le front, c'est l'eau, mais c'est pas le sacrement. Le sacrement, c'est les deux. Et les deux unis, dans une unité particulière qui fait le sacrement. Je suis très loin du geste. Et pourtant, je suis très près. C'est intéressant de voir les deux. Alors, la parole, je comprends. Tout ça, pas de problème. Faisons la théologie de la parole, il n'y a pas de problème, c'est la parole qui demeure. Alors, l'élément, c'est là où c'est intéressant. L'élément. Ce sont les éléments matériels, l'eau, l'huile, le pain. C'est ça comme sont faits les sacrements. Alors cet élément implique toujours un usage. Et l'usage de l'élément, donc, est lié à un geste humain, impossible autrement. Et nous avons le lien entre la parole et l'élément, qui donc va impliquer l'usage, qui va impliquer le geste. C'est pour ça qu'on dira, par exemple, il y aura le baptême d'immersion, où il y a un autre geste, et le baptême tout simplement habituel, quand on baptise un enfant, en versant l'eau sur son front. Il y a un geste, l'usage de l'élément n'est pas toujours le même. Et l'usage de l'élément donne tout un rythme particulier, un rythme particulier, et donne par le fait même un geste particulier. Donc c'est lié à un geste. Je ne peux pas faire un sacrement sans qu'il y ait un geste humain. Impossible. Tandis que je peux lire l'écriture sans aucun geste humain. Vous savez, qui lit l'écriture les mains dans le dos, comme ça. Ça s'arrête, ça va. C'est beau, tu vois, d'une certaine manière, il est immobilisé, il est point levé. La parole, pas de geste, rien. Tandis que le sacrement, c'est impossible. Hein. Vous lui donnez vos mains, hein, et faites votre sacrement. Hein. Impossible. Vous pouvez parler, il n'y a pas de sacrement. Et si là, vous parlez qu'un autre fait le geste, pas de sacrement. Je m'en chaud. Je vais donner le baptême. Alors, je dis à mon diacre à côté, elle vient vous venir, vous serez l'eau. Hein. L'Église peut permettre. Je crois que l'Église peut permettre certaines circonstances. Le geste est impossible, un autre fait le geste. Alors, il y a une coopération entre les deux. Il y a toujours un geste. Alors, les théologiens diront que, à cause de l'élément, on est en présence d'un signe pratique. Et tout le développement de la scolastique qui fait que le sacrement est un signe pratique. Et les théologiens modernes diront symbole. Alors, ils développent énormément de symboles, c'est l'ordre du jour. Mais anciennement, on disait un signe pratique. Et on disait signe pratique à cause de l'élément. et à cause du geste, si pratique, quelle signification particulière. Une signification qui n'est pas une signification du tout comme la parole, qui est une signification ordonnée à l'action, qui est dans une action. Le signe pratique du baptême implique de fait la purification. Signification pratique qui est liée au symbole du sacrement. Et chaque sacrement a sa symbolique propre qui implique au point de vue du signe pratique. Alors quand on dit signe pratique, ça c'est la grande scolastique qui dira ça, signe pratique. Jean de Saint-Thomas développe énormément pour les sacrements le signe pratique et fait la différence entre le signe pratique et le signe spéculatif, entre les deux. Et on comprend très bien. Alors est-ce que nous ne retrouvons pas là, justement, une signification qui est liée au geste? On va voir ça la fois prochaine. Alors essayez, vous-même, de faire votre petit dossier sur le signe pour qu'on puisse progresser dans cette question du signe.